Nos rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y arriver si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau, mais sans y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre les rivières et nous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine, la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre, et enfin la Rance. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième épisode consacré à cette rivière du Lapic qui se déverse dans la baie de Douarnenez, dans le Finistère, nous allons remonter vers sa source et son fond de vallée, dans le Ménézom. Ici, son paysage a beaucoup évolué à travers le temps. Au fil de la disparition de certaines activités, en particulier agricoles, certaines prairies humides ont été laissées à l'abandon et se sont enfrichées, reboisées naturellement. Est-ce ou pas une bonne chose ? Dans quelques minutes, nous tenterons de répondre à cette question avec Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, qui a accompagné le programme Écofriche, dédié à l'enfrichement des milieux humides en Bretagne. Mais tout d'abord, partons à nouveau sur ce bassin du Lapic à la découverte de son paysage actuel, dans le cadre de l'Atlas socioculturel qui a été organisé sous l'égide de l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez. C'est un reportage signé Véronique Museau de Radio Transistor, votre radio associative locale du Centre Finistère.
Le Lapic est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer, dans la baie de Douarnenez, après avoir traversé le Porzay, un territoire où l'agriculture domine encore largement. Le paysage est vallonné, en pente douce vers la mer, depuis le Ménézom qui domine à un peu moins de 300 mètres. Charles Viala est paysagiste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE du Finistère. L'établissement public de la baie de Douarnenez, l'EPAB, lui a demandé de faire découvrir le bassin du Lapic aux personnes qui y vivent et de commenter donc le paysage. Enfin, d'abord, il fait écouter le paysage. Et puis, il en propose des définitions.
Le paysage, il y a eu... Il y a eu des définitions du paysage, il y a eu une définition juridique en 2000 lors de la Convention européenne du paysage. Je vous la donne. Une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et leur interrelation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot perception. Mais on a tous une perception différente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une histoire différente. On vient de milieux différents, on a des cultures différentes et on ne ressent pas, on ne voit pas les mêmes choses. Alors je vais vous lire aussi une définition du paysage de quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est un géographe qui est spécialiste du paysage et de la gastronomie, Jean-Robert Pitt. Il était à la Sorbonne à Paris et donc il enseignait l'histoire du paysage. Alors je vous lis sa définition. Le paysage est une réalité culturelle.
Le paysage est une réalité culturelle car il est non seulement le résultat du labeur humain, mais aussi objet d'observation, voire de consommation. L'histoire du paysage français, Jean-Robert Pitt.
Nous sommes donc sur les hauteurs de l'Ocronan et le Lapic se fait désirer.
Cette balade, le titre c'est « Où est le Lapic ?» quoi. Où est-ce qu'il est ? C'est vrai qu'il joue à cache-cache, quoi. Et alors, pourquoi il joue à cache-cache ? Et en fait, on va vous expliquer pourquoi on ne le voit plus, en fait. Et est-ce qu'on le voyait à une époque ? En fait, oui, on le voyait à une époque, bien mieux. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une modification importante du parcellaire. Chaque ruisseau, chaque rivière était accompagné de prairies humides. Et ces prairies humides étaient très entretenues. Et donc, ça créait une ouverture du paysage.
Donc le paysage a changé et pour le montrer, Charles Viala a apporté des documents, une peinture du 19e siècle signée Yvonne Jean Affen, mais aussi des cartes, des photos anciennes.
Et on voit bien en photo aérienne, moi je fais beaucoup d'études et du coup je regarde l'évolution et on voit l'emprise des haies, des arbres. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder cette photo aérienne des années 50 de Locronan qui montre, en fait c'est la vue, exactement cette vue d'ici. Si on maintenant décrit ce paysage, on va le faire ensemble. Regardez ce paysage, tournez-vous vers tout ce paysage là et comment on le qualifierait ? On est sur un paysage rural complètement façonné par l'homme. Il a fallu que les anciens aménagent ce territoire à partir du relief de manière à pouvoir s'appuyer sur ce relief. Le paysage est l'expression observable par les sens à la surface de la terre de la combinaison entre la nature, les techniques et la culture des hommes. Il est essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa dynamique, c'est-à-dire dans le cadre de l'histoire qui lui restitue sa quatrième dimension. Si l'écologie rappelle que la nature...
Si l'écologie rappelle que la nature a ses lois fondamentales et qu'il en coûte de les transgresser, l'histoire enseigne que l'homme a ses raisons que la nature ignore. L'histoire du paysage français, Jean-Robert Pitt.
La nature, la vie sauvage, c'est l'établissement public de la baie de Douarnenez, l'EPAB, qui les suit de près, justement, et en particulier Olivier Robin.
Olivier Robin, je suis technicien à l'EPAB, et je m'occupe de la restauration des rivières et des zones humides. Et donc la Pique, c'est un petit bassin versant, il fait 3000 hectares à peu près, 3500 hectares. Il prend sa source pas très loin, et il a une longueur à peu près de 8 km sur le cours principal, plus avec les affluents, ça fait quand même un beau linéaire de réseau hydrographique. Et sur ce site-là, on avait une difficulté, le cours d'eau était... coincé entre un ancien étang et le terrain de l'autre côté. Donc en fait, il était complètement contraint dans son tracé. Il avait été redressé, mais tout le tracé du Lapic a été modifié au moment du remembrement. Donc il a perdu, Paul pourrait me corriger, c'est 1 km sur toute sa longueur initiale. Donc il y avait plein de petits méandres qui ont été simplifiés pour délimiter un peu plus facilement les parcelles de part et d'autre. Et donc quand on simplifie les écoulements comme ça, en fait, on accélère les écoulements, on diminue la capacité du milieu à fonctionner, à héberger de la faune et de la flore qui permet un fonctionnement naturel. Et un des impacts, c'est la capacité du cours d'eau à filtrer l'eau et à conserver une eau de bonne qualité.
Dans un paysage agricole, le remembrement a beaucoup joué. Lancé dans les années 1960, cette vaste réforme a redécoupé les terres agricoles et réorganisé ces terres pour créer des exploitations plus grandes, rationalisées et adaptées aux machines agricoles modernes. On a redessiné les terres et on a aussi redessiné le Lapic pour lui donner un tracé plus rectiligne.
Donc dans un lit de rivière, en fait, si on regarde le lit de la rivière, on a du caillou, on a du sable. Tous ces éléments-là, en fait, ils hébergent plein de choses. Et sur ça, la couleur que vous voyez sur le caillou, là, c'est pas juste la couleur du caillou. Si on le frottait un peu, en fait, on se rendrait compte que c'est vert, c'est rouge. Ça, c'est plein de micro-algues qui sont développées dessus. Et tous les cailloux, tous les graviers, en fait, ils sont recouverts de ces micro-algues qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et de la même manière, on a plein d'invertébrés. On voit des petits. On peut regarder. Les enfants, si vous les regardez sous les cailloux, il y a plein de petites bêtes. Et en fonction des conditions dans lesquelles on vient, à la saison dans laquelle on vient, on va trouver des bêtes différentes. Et tous ces organismes, que ce soit des petites bêtes ou des algues, ils contribuent à améliorer la qualité de l'eau et à la vie de la rivière.
L'intervention humaine a donc transformé la rivière et changé aussi sa faune et sa flore. L'agriculture a changé et change encore, ce qui transforme encore le Lapic et ses berges.
C'est tout un système hydraulique naturel qui a été transformé par ces travaux-là et qui a été très, très fortement simplifié. Et en approfondissant le cours d'eau, on diminue en fait le toit de ce qu'on appelle le toit de la nappe, donc le niveau maximum de l'eau dans la nappe. Et donc on assainit un peu les terrains, on diminue leur engorgement et donc on les rend plus facilement exploitables.
Donc on peut plus facilement les cultiver, mais du coup la fonctionnalité de la zone humide, elle en pâtit, parce que la zone humide, c'est aussi un fonctionnement pour l'été. C'est-à-dire que quand il y a des périodes de sécheresse, le fait qu'elle a son profil très très doux, elle maintient, elle garde la fraîcheur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les anciens, ils pouvaient mettre leurs animaux là, parce qu'ils étaient assurés d'avoir de l'herbe verte. Moi, je me souviens bien de la sécheresse de 76, il y en a beaucoup qui doivent se rappeler encore. En 76, c'était compliqué pour les animaux. Eh bien, les endroits où il restait encore un peu de fraîcheur, c'était les prairies qui étaient encore à peu près encore entretenues.
En plus, à ces époques-là, en fait, les fermes qui avaient des zones humides considéraient que c'était une richesse d'avoir ces espaces-là, parce que justement, ça faisait sur la période d'été, ça faisait une ressource supplémentaire qu'ils n'avaient pas ailleurs. Et aujourd'hui, le paradigme, il est un peu inverse, c'est-à-dire que la zone humide, c'est plutôt une contrainte plutôt qu'une richesse. Donc, elles ont plutôt... elles sont plutôt délaissées. En plus, la population agricole étant moins importante, en fait, les fermes, quand elles cessent leur activité, elles sont reprises par d'autres exploitants. Donc, les terres moins intéressantes, on les laisse de côté. Et puis, on va exploiter un peu plus haut, là où c'est plus facile. Ce qui va de pair, c'est aussi certainement un changement avec le remembrement, un changement des systèmes agricoles. Et donc, en fait, peut-être une perte d'usage de ces zones-là, progressive ou en tout cas en marche, qu'on voit aujourd'hui qui s'accroît encore un peu plus. Mais on se demande que vont devenir ces espaces-là, parce que là, le premier qui a été modifié, c'est le cours d'eau. On voit qu'aujourd'hui, il est chenalisé, enfin, ça va, voilà, c'est un chenal unique, qu'on le laisse se faire envahir par la végétation. Alors, c'est pas forcément...
C'est pas tout faux.
C'est pas néfaste que les arbres se développent, mais ça traduit un changement de l'usage, en tout cas, par rapport au passé. Et puis, dans certains endroits, sur notre territoire, on voit que, finalement, l'entretien, il se limite à la clôture. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, il ne se passe plus rien en fait. Donc il n'y a plus d'entretien du tout du cours d'eau. Donc il y a des endroits où les arbres tombent dans la rivière, font ce qu'on appelle des embâcles, ou des encombres. Donc ça retient un peu les écoulements. Ce qui est très bien parce que ça vient contrecarrer naturellement les travaux qui ont eu lieu
d'accélérer
à l'occasion du remembrement. Donc ça fait des points de blocage, de freinage, et des points de diversification des écoulements. Et donc c'est pas mal.
Faut-il redonner au Lapic ses méandres d'origine ? Faut-il renaturer les berges de la rivière ? C'est toute la question.
On s'aperçoit que rien n'est tranché. Par rapport au paysage, le paysage et l'écologie ne vont pas forcément ensemble. Il faut essayer d'aller ensemble. Et par exemple, ici, le paysage se ferme complètement. On a perdu cette connexion avec la vision des prairies. Mais d'un point de vue écologique, et pour beaucoup d'oiseaux, pour beaucoup d'espèces, ils sont tranquilles. Le bon côté, c'est que finalement, ça fait des endroits un peu refuge. Ça fait des petits corridors, quelque part. Alors qu'à une époque, c'était, on voit bien d'ailleurs sur les cartes postales anciennes, c'était beaucoup plus entretenu. L'arbre qui était présent, il avait une fonction. Il était planté là et il y avait très peu d'arbres, en fait, dans la campagne. Les arbres étaient plutôt dans les milieux urbains, autour des églises et des chapelles. Mais dans la campagne, il y avait très très peu d'arbres en fait. Tout était hyper entretenu, fauché, voilà. Et là, on est retourné vers quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est ni tout blanc ni tout noir. C'est plus subtil que ça en fait. Mais il faut qu'on communique.
Un écrivain participe à la balade, Michel Suzarini, qui fait parler le Lapic. Et on va lui laisser le dernier mot.
Nous devons prendre le temps ensemble. Sans l'homme, je pourrais me refermer. Tout demande du temps, j'en ai l'expérience aiguë. Sensibilisons pour ne pas bloquer. Un travail de fond et de longue haleine, recréons des méandres, créons des zones libres. Accordez-moi votre attention, un cours d'eau c'est la vie. Vous avez tous une partition à jouer. Vous vous déconnectez trop souvent de la terre, revenez à du cohérent en me fréquentant. De reconnecter à la terre, à l'eau c'est vertueux. Agissons avant d'être contraints et le monde se portera mieux.
À l'instant, ce reportage sur l'évolution du paysage sur le Lapic, en particulier sur le fond de sa vallée. Un reportage signé Véronique Museau de Radio Transistor, votre radio associative locale au Fou, dans le Finistère. Pour aller plus loin sur cette thématique des fonds de vallée de nos rivières en Bretagne, eh bien nous sommes en liaison aujourd'hui avec Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'Université Rennes 2. Simon qui a accompagné le programme Écofriche dédié à l'enfrichement des milieux humides en Bretagne. Bonjour Simon Dufour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous peut-être au reportage que l'on vient d'entendre et qui montre un changement de paysage très sensible sur le Lapic, en particulier sur ses fonds de vallée?
J'ai trouvé ce reportage vraiment très intéressant. Et notamment, il y a deux choses que je trouve particulièrement pertinentes. D'abord, je ne suis pas surpris de ce qui est décrit dans le long du Lapic. C'est un phénomène, ce phénomène qu'on ait des boisements qui se développent le long des cours d'eau, dans les fonds de vallée, c'est un phénomène qui est plus large, qui ne concerne pas que le Lapic. Hein. C'est quelque chose qu'on observe dans plein de régions, même à l'échelle européenne, que ce soit des régions de moyenne montagne, des régions en centre-Europe, dans les Alpes, dans les contreforts du Pyrénées. Donc voilà, d'abord, ça m'a pas trop surpris. Et deuxième chose que j'ai trouvé vraiment intéressante dans ce reportage, c'est que ça illustre bien la complexité. C'est-à-dire que c'est à la fois une évolution paysagère qui va poser des questions écologiques sur la diversité, puis aussi des questions sociales. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Et puis des questions, jusqu'à des questions sensibles. Voilà, est-ce que ça nous pose des soucis en termes d'appréciation esthétique du paysage? Quel sentiment ça nous évoque, cette évolution paysagère? Donc voilà, l'idée que ça combine à la fois des dimensions sociales, sensibles, écologiques, j'ai trouvé ça très intéressant et c'était très bien évoqué dans le reportage.
Et c'est là qu'on se situe bien dans le contexte de ces atlas socioculturels des rivières de Bretagne. On parle d'enfrichement là, depuis qu'on se parle, Simon, l'enfrichement de certains secteurs de nos rivières. Qu'est-ce qu'on entend par enfrichement? Est-ce qu'on peut en donner une définition assez rapide?
Oui, bien sûr. En fait, il y a deux phénomènes qui sont associés. Il y a donc le défrichement et l'enfrichement. Donc, le défrichement, c'est un déboisement avec l'objectif de mettre en culture une parcelle. Donc, on va couper la forêt pour la mettre en culture. Et l'enfrichement, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire c'est un processus, un phénomène d'évolution spontanée de la végétation qui, à la suite de l'arrêt de l'usage agricole d'une parcelle ou de sa réduction, ce processus d'évolution, il va se traduire par des changements de végétation. Alors, on va avoir, par exemple, au début, des ronces, des herbacées, puis qui vont se développer, ça va faire des petits arbustes, puis parfois, ça va donner lieu à des arbres. Alors, en fond de vallée, ça peut être des saules ou des aulnes, par exemple. Donc, c'est vraiment un processus d'évolution qui est spontané quand la pratique agricole s'arrête.
Justement, on est peut-être vers cette évolution plus globale de l'enfrichement sur nos rivières. Qu'est-ce qui explique cet enfrichement en Bretagne de nos rivières? Est-ce qu'il y a une cause ou plusieurs causes, finalement?
Oui. Alors, c'est vrai que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui se produisent à l'échelle européenne, mais selon les régions, ce n'est pas toujours la même cause. Donc, en Bretagne, la cause vraiment principale et presque exclusive, c'est la question des pratiques agricoles. C'est-à-dire, c'est vraiment comment l'usage agricole de ces parcelles de fond de vallée, qui a été très intense pendant toute une période de l'histoire, comment l'évolution des systèmes agricoles fait que ces parcelles ne sont plus aussi utiles qu'elles l'étaient, moins utilisées. Donc c'est vraiment ça. Et puis après, donc ça c'est l'évolution globale, c'est le changement de pratique agricole. Et puis après, si on zoome un petit peu à l'échelle d'une vallée ou vraiment d'une rivière, chaque parcelle peut avoir une petite dynamique un peu particulière. Par exemple, vont s'enfricher en premier celles qui ne sont pas accessibles, qui sont très loin du siège d'exploitation, qui sont enclavées, etc. Mais voilà, c'est vraiment la question des usages agricoles pour la Bretagne qui est le plus important.
Vous avez travaillé sur un programme qui s'appelle Ecofriche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce programme et ses objectifs?
Donc ça, c'est un programme qui a eu deux phases, qu'on a menées en collaboration avec donc le Forum des marées atlantiques, des structures de gestion de l'eau dans des bassins versants du centre-Bretagne notamment, et puis plusieurs scientifiques. Et en fait, ce programme de recherche un petit peu à action, c'est né de questionnements justement de ces gestionnaires de bassins versants, qui était de dire, aidez-nous à mieux comprendre comment on peut lutter contre l'enfrichement, parce que c'est compliqué, on voit bien que c'est un phénomène qui semble important, et on ne sait pas trop où intervenir. Donc ça, c'est la question de départ. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré une réflexion pour déjà évaluer le phénomène, c'est-à-dire quantifier cet enfrichement à l'échelle de la Bretagne pour voir si c'était vraiment quelque chose d'effectif ou simplement une idée comme ça. Donc c'était assez vrai. On voit aussi que d'ailleurs qu'en Bretagne, toutes les régions ne sont pas touchées de la même façon. Y en a qui le sont plus que d'autres. Après, on a essayé de comprendre les causes. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant, vraiment faire le lien entre l'évolution des pratiques agricoles et ce phénomène-là. On a aussi étudié quel regard les habitants, les agriculteurs, les élus avaient sur ce phénomène-là. Voilà quel était leur, voilà quel regard ils portaient sur ça. Est-ce que c'est positif, négatif?
Justement, ouais, là-dessus, si on s'arrête sur ce regard, ouais. Qu'en est-il? Ça a l'air assez contrasté d'après ouais. l'étude.
Oui, c'est assez contrasté parce que bon, quand on parle d'enfrichement et de fermeture des paysages, c'est souvent d'ailleurs des termes qui sont associés. On a globalement, et d'ailleurs une partie des personnes nous ont répondu ça, en gros, c'est parfois quelque chose qui est perçu comme négatif. On va même parfois, même dans des ouvrages ou dans de la littérature plus ancienne, on parle de lèpre parce que c'est sale, c'est considéré comme un abandon, voilà, comme quelque chose de ouais. globalement des mots qui sont négatifs. Mais ça, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas unique. C'est pas la seule façon de voir les choses. Il y a des gens qui vont avoir un regard plus nuancé, neutre, voire positif. Et ça peut dépendre, par exemple, de l'âge. Dans les gens qu'on a interrogés, par exemple, les agriculteurs retraités qui avaient connu le paysage des années 50 très ouvert, avec très peu de friches, eux, c'était vraiment quelque chose de très négatif. Par contre, les plus jeunes agriculteurs qui avaient grandi avec des paysages où il y avait déjà quelques friches qui étaient présentes, bah, par exemple, il y en a qui avaient des regards très neutres. Bah, c'est comme ça, voilà, c'est là, c'est présent, ça fait partie du paysage, c'est normal. Et puis, on peut aller jusqu'à des gens qui ont un regard même positif parce qu'ils voient ça comme un retour de la nature, du sauvage. Donc, on a un peu tout le panel, en fait, hein, de regard.
Donc, changement d'époque, changement de regard. Selon vos études, là, on va s'attaquer un petit peu à peut-être au dur du sujet et un des grands objectifs de votre étude, c'est les conséquences, finalement, de l'enfrichement. Quand on laisse un paysage comme ça, de fond de vallée, de rivière en friche, est-ce que ça a des conséquences néfastes déjà sur la qualité de l'eau et sur ses fonctions, les fonctions hydrauliques d'une rivière?
Ça, c'était un autre volet qu'on a voulu explorer. Alors, on ne l'a pas exploré par des expérimentations. On a surtout regardé toute la littérature scientifique pour essayer de se dire, voilà, quand on passe d'une prairie humide, plutôt en gestion extensive, ce qui était le cas de beaucoup de ces milieux-là.
Donc entretenu, oui. Ouais.
Voilà, entretenu, pâturé, fauché, etc. Quand on passe de ça à un boisement avec, par exemple, des saules, qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, par rapport à la qualité de l'eau, alors que ce soit la qualité, la quantité, il n'y a pas d'éléments dans la littérature qui laissent penser qu'on va avoir des gros problèmes qui vont émerger. Parce que dans certains cas, l'évolution n'a pas d'effet. Parfois, il y a un petit effet parce que les boisements vont avoir un effet qui peut être positif ou négatif, mais il va être compensé parce que sur certains aspects qui sont positifs, d'autres sont négatifs. Sur le ralentissement de l'eau, par exemple, pour ralentir les pics de crue, par exemple, une prairie ralentit un petit peu moins qu'un boisement. Mais il y en a qui disent aussi parfois que les boisements peuvent consommer un peu plus d'eau. Mais ça, pareil, on n'est pas bien sûr. Donc en gros, souvent, on est dans des marges d'erreur qui font que objectivement, on n'a pas trouvé d'éléments dans la littérature qui soient alarmants. Et les conclusions qu'on en tire, c'est qu'en gros, au niveau de la qualité ou de la quantité d'eau, c'est vraiment pas ce reboisement qui va poser des soucis majeurs dans l'avenir par rapport à d'autres formes de pression. Donc c'est vraiment secondaire.
Cet emboisement, est-ce qu'il peut aussi avoir un effet positif filtrant sur justement les problèmes de rejet dans les rivières?
Ouais. Ouais, alors c'est pareil, donc ça peut être un peu compliqué parce que selon ce qu'on veut filtrer, voilà, selon si on parle de sédiments fins, de polluants, donc on sait qu'ils ont un effet filtrant assez fort, mais les prairies, quand elles présentent certaines conditions, ont aussi cet effet filtrant. Donc c'est ce que je disais avant, c'est qu'en gros, cette évolution-là, s'il y a quelque chose qui est très légèrement négatif, ça va être compensé par quelque chose qui est très légèrement positif, mais dans la plupart des cas, par rapport aux autres formes de pression qu'on pourrait avoir sur la qualité de l'eau ou sur sa quantité, comme je sais pas moi, le changement climatique ou les prélèvements, franchement, c'est pas cette évolution-là qui va profondément transformer les cours d'eau, quoi.
Alors pour l'instant, on comprend, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est nuancé. qu'en est-il des effets sur l'aspect biodiversité des milieux? Là aussi, ça, est-ce que entre le boisé et le pas boisé, entre l'enfrichement et le défrichement, est-ce que là on peut tirer des conclusions plus nettes, peut-être?
Oui, alors ça, c'était un autre deuxième grand volet, et celui-là, on l'a fait. On a vraiment fait des observations de terrain, c'est-à-dire on a été voilà, des collègues ont été regardés le type d'espèces qui étaient présentes à différents stades de cet enfrichement. C'est encore une fois un peu complexe, mais pour le dire simplement, si on regarde une parcelle de prairies entretenues, ouvertes. C'est un milieu ouvert qui va être favorable à certaines espèces. Par exemple, il y a des espèces de papillons qui vont avoir besoin d'espèces de plantes de milieu ouvert pour se reproduire. Voilà, il y a un papillon connu un peu pour ça, qui s'appelle le damier de la Suisse, qui est un exemple voilà, d'espèces qui ont besoin de ces milieux ouverts. Donc en gros, on pourrait se dire, ben voilà, si ça se reboise, ça va être négatif pour ces espèces-là. Mais ces espèces-là, pour lesquelles ça va être négatif, elles vont être remplacées par d'autres espèces qui, elles, ont besoin de milieux fermés. Par exemple, il y a beaucoup d'espèces d'insectes qui vivent sur le bois mort dans les boisements. Il y a les champignons aussi, les mousses. Donc en gros, on perd des espèces et on en gagne d'autres. Donc après, toute la question... c'est de se dire, bah, voilà, c'est d'avoir un travail sur ces espèces-là. Quelles sont les espèces pour lesquelles on a une responsabilité particulière? Est-ce qu'elles sont en danger? Voilà. Donc, en gros, on en perd, on en gagne. Et après, c'est un peu à nous, je veux dire collectivement, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut gagner et qu'est-ce qu'on accepte de perdre. Et puis après, deuxième niveau auquel il faut réfléchir, c'est qu'une parcelle, elle n'est jamais toute seule isolée, elle est dans un paysage. Donc, par exemple, une parcelle qui est ouverte, mais qui est dans un ensemble qui est déjà très ouvert. Si elle se boise, ce n'est pas très grave, parce que le papillon, il va aller dans la parcelle d'à côté. Par contre, si c'est un environnement qui est déjà très boisé et que c'était la dernière parcelle ouverte, là, ça peut être plus problématique. Donc, on est obligé d'aller dans quelque chose qui est presque du cas par cas, un peu.
OK, donc c'est finalement choisir de remplacer une biodiversité par une autre, d'un côté, mais c'est aussi le regard qu'on a sur le paysage. Et là, il y a différentes façons de regarder un paysage et ses continuités écologiques, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il faut réfléchir à la fois à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du paysage pour que la réponse soit bien adaptée, parce que voilà, une biodiversité remplace l'autre, mais on peut aussi avoir envie d'essayer de conserver un maximum de biodiversité par les temps qui courent. Et du coup, bah, c'est important d'avoir cette réflexion à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du paysage, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans ce programme-là.
Ouais, donc zoomer, dézoomer selon les besoins d'un territoire. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut donner, Simon Dufour, peut-être des exemples sur peut-être des rivières de Bretagne qui ont choisi par exemple, de défricher volontairement ou au contraire de laisser enfricher leur milieu. Voilà, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner?
Oui, alors c'est intéressant comme question parce que, en fait, au début du programme, on était plutôt parti avec l'idée de, en gros, on veut défricher et, en gros, où est-ce qu'il faut défricher? Et puis, progressivement, on en est arrivé plutôt à se dire qu'en fait, vu les évolutions actuelles et vu les enjeux et vu ce qu'on vient de se dire sur les effets, sur la qualité de l'eau, bah, c'était peut-être pas nécessaire. Donc pour aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où les bassins versants avec lesquels on a travaillé ou d'autres personnes qui sont venues nous contacter depuis la fin du projet. Je pense qu'on a été contacté par des gens en Sud Finistère ou aussi des gens dans la partie ouest de l'île des Vilaines, où là, en fait, on était plutôt dans une logique de dire, oh là là, on a un problème d'enfrichement. Et donc, on a été avec parfois c'est des élus, parfois c'est des techniciens sur le terrain avec eux. Et puis, en fait, on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'accompagnement, de dire en gros, en fait, on veut plutôt accepter l'enfrichement. Mmh. Et éventuellement, juste intervenir très ponctuellement là où ça pose souci. Par exemple, il y a un cheminement le long du cours d'eau et on veut garder ce cheminement, on intervient, mais la parcelle qui est à côté, on la laisse. Donc aujourd'hui, la logique, c'est vraiment dans la dentelle et on est plutôt dans l'accompagnement d'une forme d'acceptation de cet enfrichement. Et éventuellement, à certains endroits, de se dire, ben là, il y a une parcelle qui va être nécessaire pour de maintenir pour telle ou telle espèce. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vraiment eu de gros programmes de défrichement qui ont été lancés. Voilà, on n'est pas là-dedans.
Simon Dufour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, que vous avez accompagné donc ce programme Ecofriche dont on vient de parler et qui est dédié donc à l'enfrichement des milieux humides en Bretagne. Vous pouvez retrouver donc les résultats de cette étude Ecofriche sur le site forum-zone-humide.org. Merci beaucoup, Simon Dufour.
Ben merci à vous. Au revoir.
Cet épisode est à retrouver en podcast sur le site corlab.org, rubrique podcast, émission Rives et Récits. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de ce magazine dédié aux atlas socioculturels des rivières de Bretagne. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et donc prenez soin de vos rivières et de vos cours d'eau.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.